Historama, l'histoire d'un jour. Aujourd'hui, le 27 mai 1905, la flotte russe est dévastée par les Japonais à Tsushima. Le port de Libo sur la Baltique est en effervescence. Les drapeaux russes claquent au vent, une foule compacte se presse sur les grandes artères qui conduisent à la mer. Le long d'Arad, tous les regards se portent en direction des hautes silhouettes des 35 navires de guerre prêts à partir pour l'Extrême-Orient. Le tsar Nicolas II est monté sur le pont du Souvarov pour un ultime adieu à la flotte qui doit venger l'honneur russe. En cette matinée d'octobre 1904, des salves d'artillerie ébranlent l'air. Depuis 6 mois, l'Empire russe est engagé dans une guerre désastreuse en Extrême-Orient contre le Japon. Sur terre comme sur mer, les échecs se succèdent. Le 10 août 1904, l'escadre russe de Port Arthur est écrasée par la flotte de l'amiral Togo. À cette nouvelle, un frisson de colère secoue la Russie. Prévoyant la défaite, Nicolas II fait travailler les arsenaux à plein rendement pour mettre à la mer une nouvelle flotte impressionnante. Cette puissante armada, pompeusement nommée la deuxième escadre du Pacifique, doit délivrer Port Arthur, assiégé par les Japonais. Elle est dirigée par l'amiral Zinoviev Petrovitch Rodzhestvenski, grand et maigre, les traits émaciés, le visage sévère, les yeux de braise brillants sous d'épais sourcils qui encadrent une grosse verrue. Le vieux marin mesure les difficultés de la mission qui lui a été confiée. Il sait que ces navires, trop rapidement armés, n'ont qu'une piètre valeur nautique et militaire. Il n'ignore pas que ses officiers sont mal instruits et ses équipages inexpérimentés. Et pourtant, il accepte de mener au combat cette immense armada au terme d'un périple de 35 000 kilomètres. Après de longues hésitations, Nicolas II ordonne l'ordre de longer les côtes de l'Afrique occidentale et de gagner l'océan Indien en doublant le cap de Bonne-Espérance au lieu de couper par le canal de Suez, voie plus rapide mais trop fréquentée. Il pense ainsi que le passage des Russes ne sera pas repéré par les espions ennemis. Il mesure les risques d'un tel parcours, il prévoit les difficultés liées au ravitaillement en vivres et en charbon, bien des ports neutres vont lui fermer leur entrée, alliés au Japon, l'Angleterre est malveillante, toutefois il espère que les Français lui seront favorables. Le chef de la deuxième escadre du Pacifique a la tâche délicate de conserver le moral de ses hommes que des éléments défaitistes travaillent et que tourmente la perspective du combat inégal qui les attend dans les mers japonaises. Le problème du charbonnage est terrible à résoudre. Les neutres accordent leur aide avec peu de bonne volonté. De peur de complications diplomatiques, le commandant du port de Dakar limite à 24 heures le mouillage dans les eaux françaises. Sous un soleil de plomb, les marins sont contraints de charger en une journée des milliers de tonnes de combustible. Au Gabon, la température atteint 56 degrés à l'ombre. La malaria et la dysenterie déciment les rangs russes. Chargés à couler, les bâtiments russes se dirigent vers le cap de Bonne-Espérance. Le 20 décembre 1904, la pointe du continent africain est doublée, mais un ouragan s'abat sur le convoi. Les navires, alourdis par leur soute trop pleine, sont près de sombrer. Des lames de 15 mètres de hauteur soulèvent les vaisseaux et les laissent retomber comme des fétus. Mâts, chaloupes, gréements sont arrachés par les vagues qui déferlent. Arrivé à Madagascar, le chef de l'escadre russe apprend la capitulation de Port Arthur au terme de 11 mois de résistance. Désormais, les Japonais ont la maîtrise absolue de leur mer. Déjà, les mauvaises têtes font de la propagande défaitiste et révolutionnaire, mais l'armada russe reçoit l'ordre de poursuivre sa route. Tous les navires de guerre restés en Russie sont armés et se dirigent vers l'océan Indien par la mer Rouge pour lui prêter main forte. À Madagascar, les autorités françaises refusent aux Russes l'entrée du port de Diego Suarez, où ils doivent trouver arsenaux, poudrières, ateliers de réparation. Elles ne lui offrent que le médiocre abri de Passandawa. Là, le climat chaud et humide sape les énergies. Le transport du charbon se fait avec mollesse. À chaque heure libre, matelots et gradés se sauvent à terre, traînés dans les cabarets ou les maisons de plaisir créées par les malgaches avides de l'argent étranger. Les tentatives de désertion se multiplient. Les fièvres minent les Russes, habitués au climat sain des pays nordiques. À Madagascar, ils apprennent la révolution qui vient d'éclater à Saint-Pétersbourg. 15 000 ouvriers conduits par un pop manifestent devant le palais d'hiver. La troupe tire, de nombreux manifestants sont blessés. En représailles, les révolutionnaires assassinent le grand-duc Serge, frère du tsar. La police rétablit l'ordre, mais les esprits demeurent aiguisés. Le 16 mars 1905, l'escadre russe lève l'ancre et s'engage sur l'océan Indien. Par une chaleur torride, le long cortège chemine. Les journées se succèdent, monotones. L'amiral Rogesevensky veille à ce qu'aucun traînard ne s'écarte du convoi. Les bâtiments qui quitteront la file seront torpillés. Le 8 avril, la flotte russe double la pointe de Singapour, défile devant les marins anglais stupéfaits, remonte au nord vers les eaux indochinoises. De nouvelles difficultés surgissent sur les côtes d'Annam, d'abord échouées dans la baie de Kam Ralin, où ils espèrent charbonner en paix. Les Russes sont envoyés au bout de 24 heures par les autorités françaises. Un jeu de cache-cache commence alors entre les navires russes et les croiseurs français qui finalement acceptent leur présence. Quelques jours de repos sont ainsi donnés aux hommes avant l'engagement suprême. Avec ferveur, marins et officiers célèbrent la Pâque. La deuxième escadre du Pacifique est rejointe par les renforts. La double escadre, forte de 55 navires, remonte vers les mers japonaises. Avec le climat plus frais, les énergies reviennent. Pourtant, l'amiral Rogesevensky est conscient de la supériorité japonaise. Son désir secret est de gagner Vladivostok, mais pour atteindre le grand port sibérien, il n'a qu'une seule voie possible, le détroit de Corée, large passe coupé en son milieu par l'île de Tsushima, où s'est postée la flotte japonaise de l'amiral Togo. Le 27 mai, vers midi, le gros des forces japonaises apparaît à l'horizon, barrant la route à la flotte russe. 5 heures durant, le combat fait rage. Écrasé par la supériorité du tir japonais, la flotte de Rogesevensky, ou plutôt ce qui en reste, est plongée dans la plus effarante confusion. Flottaison percée, cheminée abattue, tourelle crevée, carène démontée, les navires russes encore debout sont dans un état affreux. Sur les quelques ponts encore intacts gisent des centaines de mourants ou de blessés, tandis que les obus ennemis continuent leur œuvre de mort. De l'énorme flotte de Libo, il ne reste que quelques épaves informes. Ce n'est plus une défaite, c'est un véritable désastre. L'amiral Rogesevensky est blessé, son crâne est fendu, son torse et ses membres sont criblés d'éclats d'obus. Il perd connaissance. Lorsqu'il revient à lui, il est prisonnier des Japonais pendant plusieurs mois. Le chef de la flotte russe, défaite, gît sur un lit d'hôpital. Là, il apprend les terribles nouvelles qui concernent l'Empire russe, la guerre civile, les émeutes réprimées dans le sang, la signature d'une paix conclue sous les auspices des puissances et qui souligne le triomphe de l'empire du soleil levant. Libéré après avoir reçu l'hommage de son vainqueur, l'amiral Rozhestvensky rentre en Russie. De Nagasaki, il gagne Vladivostok, tête de ligne du Transsibérien. Au terme d'un long et épuisant périple, il atteint Saint-Pétersbourg où un long procès lui est attenté. Destitué pour négligence dans les devoirs de sa charge, il accepte sans protester le verdict. À ceux qui s'insurgent devant lui contre l'injustice de son destin, il répond « Dieu l'a voulu ». Quelques mois plus tard, il meurt de chagrin et d'amertume. Nous retrouvons Historama dans un instant, après une pause musicale. Ce sera le moment de la chronique littéraire, un jour trois livres. Je vous le dis tout de suite, ce sera exceptionnellement quatre livres aujourd'hui. Nous écoutons Les Doors et un titre de 1968, Spanish Caravan. Vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour, la chronique littéraire Un jour, trois livres, préparée par Emmanuel, trois livres, en fait quatre aujourd'hui, d'un même éditeur, les éditions Liana Lévy. Je ne sais pas pourquoi je vous dis quatre livres, non, ce sont bien trois livres, excusez-moi. La réparation du monde, pour commencer, de Slobodan Snager. La littérature de la Mitteleuropa reste bien souvent empreinte de nostalgie et de l'enchevêtrement des populations, créant au fil du temps un melting pot, malgré tout générateur de difficultés à vivre ensemble. Voici donc l'histoire des Kempf. Le jeune Georg Kempf part s'installer en 1770 pour la Transylvanie. L'essentiel du récit se concentre cependant sur les tribulations de son descendant homonyme, dont la famille s'est installée depuis des générations en Slavonie, l'actuelle Croatie. Ce descendant, ce Kempfela, étudiant en médecine, se voit enrôlé dans la Waffen-SS à l'instigation de son père, qui, flairant la guerre civile dans les Balkans, croit que son fils bénéficiera de la protection due aux prisonniers de guerre et soudoie le recruteur nazi à cette fin. Le jeune homme se retrouve dans le sud de la Pologne démantelée entre 1943 et 1944, à proximité des camps d'extermination, au cœur d'un âge d'airain où la vie humaine a perdu toute valeur. Il va parvenir à s'enfuir dans la forêt polonaise et à rejoindre un groupe de maquisards soviéto-polonais, ainsi obtenir un certificat de combattant scientifique soviétique, un précieux sésame dans une Yougoslavie en pleine révolution. La réparation du monde, c'est signé Slobodan Snager et c'est publié aux éditions Liana Levy. Vie dérobée de Cynthia Leon, toujours aux éditions Liana Levy. Trois femmes, trois destins, trois vies dérobées. En 1936, à Jaffa, Ibrahim et Abraham, deux marchands de tissus voisins, l'un musulman d'Istanbul et l'autre juif d'Odessa, s'associent pour l'achat d'un précieux lot de coton égyptien. Mais lors d'un massacre, la famille d'Abraham est anéantie. Ibrahim, pour ne pas perdre son investissement et récupérer la part d'Abraham, décide d'usurper son identité. Myriam, sa femme, tente en vain de s'y opposer. Ibrahim, devenu Abraham, inventera pour lui et pour sa fille Yasmine une variante inédite du maranisme. L'imposture aura plus tard des conséquences sur leur destin et celui de leur famille. En 1938, en Italie, Giuditta, élevée dans une totale laïcité, découvre son appartenance juive alors que les lois raciales entrent en vigueur et l'obligent à la dissimuler pour affronter une vie pleine de dangers. En 1991, Esther, sa fille et troisième héroïne de ce roman, se voit proposer un drôle de contrat, un mariage créant un véritable imbroglio identitaire aux conséquences imprévisibles. Vie dérobée, au pluriel, c'est signé Cynthia Leone et c'est publié aux éditions Liana Levy. Et je termine cette chronique par Le Petit Soviet d'Éric Descouty, toujours chez Liana Levy. Il a fallu l'appel d'un banquier inconnu pour que Joseph Kruger retourne dans la région de ses parents récupérer des documents concernant la succession de ceux-ci décédés. Ni eux ni lui n'avaient plus d'attache dans cette région depuis trois décennies. Déjà à l'instant où il remet les pieds au village, Joseph est assailli par les souvenirs d'enfance qu'il pensait effacer, mais surtout, dans ces rues vides, il a l'impression tenace que chacun de ses mouvements est surveillé et que tous ont été informés de son retour. Il comprend vite que sa présence dérange, qu'on aimerait savoir s'il connaît l'encombrant épisode de la fin de la Seconde Guerre mondiale, scellé dans un pacte de silence dans tout le village, épisode dont les habitants étaient soit complices, soit receleurs. Le Petit Soviet, c'est signé Éric Descouty et c'est publié aux éditions Liana Levy. Ainsi s'achève cette émission Historama. Merci à Lucas qui l'a réalisé et nous allons nous séparer en musique avec les Doors, Riders on the Storm, un titre de 1971, l'un des tout derniers de ce groupe, puisque son leader Jim Morrison décède à l'automne 1971. Je rappelle qu'il est inhumé au cimetière du Père-Lachaise à Paris, lieu de son trépas. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle narration d'une date de l'histoire. À très bientôt. The book.
vous parle.